À l'occasion du salon d'édition indépendante Offprint 2024, DU réalise une série d'entretiens autour de l'édition contemporaine, en partenariat avec le CNAP, Centre National des Arts Plastiques. Antoine Lefebvre et le collectif Objet Papier présentent Print It, l'aventure Artzine, projet de recherche et de publication web to print sur la culture des fanzines. Bonjour Antoine Lefebvre, Morgane Bartoli et Corentin Moussard.
Bonjour. Bonjour.
Comment vous allez ? Ça va ?
Super bien, super.
Très, ouais. Très bien.
On va commencer par toi, un petit peu, Antoine. Je pense que c'est bien de commencer par le début de cette histoire. Donc, tu es artiste, éditeur, notamment d'un projet dont on va parler, qui est celui d'Artzine. Morgane Bartoli, tu es éditrice et directrice artistique. Et avec Corentin Moussard, éditeur et développeur, vous faites tous les deux partie, aux côtés de Ronan D et de Juliette Bernachaud, du label de micro-édition Objet Papier. Et votre première collaboration à tous les cinq, c'est ce happening qui se déroule en ce moment au salon Offprint, qui est intitulé Print It, l'aventure Artzine. Donc, pour commencer ce projet, est-ce que Antoine, peut-être tu peux te présenter, peut-être avec d'autres qualifications que je n'ai pas citées, et puis le début de ce travail d'Artzine qui a pris plusieurs formes, et notamment celle d'une recherche en open source qui a été mise donc en ligne à partir de 2015.
Oui, donc dans l'édition qu'on a faite, je raconte cette recherche à la première personne, donc je vais spoiler un peu le contenu du livre. En gros, ça a commencé en 2015, quand j'ai rencontré quelqu'un que j'appelle l'homme mystère dans le livre, qui m'a proposé de continuer les recherches que j'avais initiées dans ma thèse, dans laquelle je donnais une définition où j'évoquais l'idée de fanzine d'artiste. Puisque je m'étais donc c'est une thèse en recherche-création sur l'édition comme pratique artistique, et donc j'essayais d'analyser ce que j'avais produit dans un projet d'édition qui s'appelle La Bibliothèque Fantastique, et j'en suis venu à cette définition du fanzine d'artiste, puisque à la fois c'était des livres d'artistes qui avaient une inspiration conceptuelle, influencée par Fluxus notamment, et à la fois ils avaient ce côté do it yourself, bricolé, des matériaux assez pauvres, et imprimé à la demande déjà. Et donc, j'ai soutenu en 2014, et j'ai rencontré cette personne-là qui m'a proposé de me financer pour que je continue mes recherches. Voilà.
Et donc, ça a donné lieu à ce projet open source où tu as mis en ligne ces recherches, et puis la création ou l'édition de 12 fanzines, enfin d'une douzaine, il me semble qu'il y en a plus maintenant que 12.
Oui, alors j'ai fait une première série. Alors d'abord, j'ai créé un site qu'on a fait disparaître et qui sera remplacé par ce qu'on présente aujourd'hui. Et histoire justement de montrer à la fois à cette personne-là et au monde entier ce que je trouvais. Donc il y avait des scans, des fanzines, des interviews vidéo, des artistes que je rencontrais. Et j'ai commencé à sortir ce fanzine-là, donc qui souvent racontait la scène des fanzines, là où j'allais me promener. Donc ça, c'est Berlin, celui-là, c'est la Californie. J'ai été dans plein d'endroits différents. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et là, il y a quelques années, j'ai relancé le projet, justement, parce que j'avais toujours cette frustration que ce ne soit pas arrivé à un résultat qui conclut un petit peu tout ça. Donc j'ai commencé cette nouvelle série qui est devenue encore plus méta, puisque ça, c'est... par exemple une collection de projets à imprimer soi-même, celui-là c'est uniquement 40 pages de bibliographie sur les fanzines rassemblées par Isabeau Legendre, qui est un chercheur québécois sur les fanzines. Et puis j'ai contacté Objet Papier parce que je les connaissais depuis un moment déjà, quand j'ai eu cette idée un peu folle de faire un livre qui à la fois contienne toutes les données de ma recherche, mais qui se... Bah, sinon, il ferait 700 pages. Pour pas qu'il fasse 700 pages, l'idée, c'était de construire une narration qui permette de naviguer à travers ça, mais de manière à la fois ludique et puis un peu romanesque, j'espère.
Oui, Alors, on va revenir sur ce projet-là un petit peu après. Morgane et Corentin, vous êtes deux membres sur quatre du collectif de micro-édition Objet Papier. En quelques mots, il commence comment, ce projet de collectif? Il me semble que c'est Ronan et toi, Morgane, qui avez initié ce collectif.
Ça commence où Ronan, je l'ai rencontré via un ami tout à fait classiquement en soirée, et où Ronan avait sorti un premier zine vraiment de son côté tout seul. Il m'avait demandé en fait des comptes. Moi, je travaillais dans l'édition jeunesse à ce moment-là en tant que graphiste, et il m'avait demandé un peu des conseils sur comment le distribuer, enfin des conseils d'impression, si je connaissais des librairies, des choses comme ça. Et en fait, on a commencé à parler beaucoup de livres avec lui, de fanzines. Et au bout du troisième numéro, en fait, on l'a fait ensemble. Et à partir du troisième numéro, on a fait Objet Papier ensemble, quoi.
Et Corentin, tu veux dire un mot ?
Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai rejoint un peu à ce moment-là aussi, mais pas en tant qu'auteur, parce que j'ai aussi une formation de graphiste. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Morgane. On est tous les deux designers graphiques à l'origine. Et donc j'ai fait le premier site Objet Papier qui nous a permis un peu de communiquer sur les quatre premiers numéros, parce qu'on l'a sorti en même temps que le quatrième avec notre ami commun Guillaume. Et voilà, est-ce qu'il y a un peu engendré... Enfin, c'était déjà un thème présent, mais cette relation du papier au numérique qu'on a déjà fait à l'intérieur du site et de certains zines. C'est là qu'on l'a initié, on a commencé à le cerner beaucoup plus et que ça devienne vraiment un axe fil, de travail.
Un fil, c'est devenu un peu le fil conducteur du label, c'est vraiment de faire parler et dialoguer ces deux supports papier et numérique, au lieu de les opposer, vraiment de les faire dialoguer. Et du coup, avec Corentin qui a plus une formation et des compétences de dev, et moi un peu plus print de base. Enfin, aujourd'hui, tout se mélange, mais ça s'est un peu construit de cette manière-là, quoi.
Donc le projet Printed, c'est un projet qui est actif depuis 2019, puisque vous avez mis en place déjà deux happenings. Donc le premier qui était en 2019, qui s'intitulait Printed à la découverte d'Internet, et le second en 2021, Printed Surprise. Donc ce projet, c'est deux choses. Un outil qui est le CSS Print, il me semble. Normalement, j'ai bien appris ma leçon. Donc un web to print où c'est finalement le résultat de l'impression d'une page web. Et la réalisation participative d'une édition imprimée avec le lecteur.
Ouais. Exactement. Ça a commencé parce qu'on avait fait un workshop avec Morgane quand on était en master avec un artiste chercheur aussi. Enfin, je ne sais pas s'il est chercheur, mais
enseignant en tout cas.
Enseignant, ouais, qui s'appelle Raphaël Bastide et qui nous avait proposé de concevoir une page web et concevoir son aspect imprimé. Et donc, on utilise cette technologie qui est à l'intérieur du CSS. Le CSS sert à styliser une page web, quoi. C'est dire c'est telle couleur, c'est placé là, etc. Et il y a des règles spécifiques pour dire au moment où vous allez imprimer, alors il va se passer ça, quoi. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, ce serait marrant, vu que c'est du web, on a beaucoup plus la capacité de mettre du délai dans l'impression et de l'avoir au dernier moment, quoi. Et du coup, que le livre il soit créé avant. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure de ce projet-là, avec le premier qui est un format un peu magazine jeunesse, comme un Science et Vie Junior, etc., mais repris à notre sauce, quoi. Et puis si tu veux parler de la suite.
Ouais, et le deuxième du coup qui était plus interactif avec le lecteur participant au salon, où on avait mis un chatbot sur le stand, donc un ordinateur qui posait des questions sur l'utilisation qu'on peut avoir sur Internet, et en fonction des réponses ça a pioché une image. Ça l'a altéré, l'a transformé. Et du coup, on imprimait un A4. Et nous, c'est un A4 qu'on reprenait et qu'on compilait avec tous les gens du salon qui sont venus participer. Et ça, après, on l'a édité plus tard à 20-30 exemplaires.
Et vous aviez utilisé quoi comme base de données sur
les images,
sur les premiers printed?
Toutes nos images.
C'est nos images un peu de nos collections personnelles.
Un peu les mêmes que tu récupères sur Internet, les blagues, les trucs que les gens y t'envoient, un peu tout.
Et pas mal aussi sur la banque d'images libres de droit de Wikipédia. Donc en fait, on aime bien l'esthétique aussi d'Internet, donc on joue aussi avec ça.
C'est une musique que vous avez proposée pour cette émission. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots?
Mais il y a des, en fait, c'est un morceau de Sergueï que Antoine a interviewé.
Oui, qui est parmi les personnes que vous pouvez rencontrer dans le Artin Génératif.
Et qui est notre voisin aussi, sur le salon.
Et qui sample des bruits d'imprimantes. Du coup, c'est pour ça qu'on
aime
bien.
C'est pas exactement ça, hein. C'est qu'il joue de la guitare sur une imprimante.
Ok.
Et donc, ça fait des bruits. Et du coup, il fait un zine et il joue de la musique en même temps. Et c'est hyper noise. Et c'est des trucs. Parce qu'il y a à la fois les bruits de l'imprimante qui sont amplifiés, les bruits de la guitare. C'est fascinant à voir. Vraiment fou.
Du coup, à l'occasion d'Offprint, de ce Offprint, vous mettez en place le troisième volet de Printit qui s'appelle donc Printit l'aventure Artzine, donc en collaboration avec Antoine Lefebvre. Et cette fois, la base de données, c'est celle d'Artzine notamment des interviews réalisées pendant les recherches d'Antoine. Vous pouvez nous parler de ce troisième volet de Printit?
Du coup, sur celui-là, on a été confronté à beaucoup plus de données qu'on avait sur les précédents. Donc, c'est un énorme volume. Il y a plus de 80 interviews, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, on peut en rajouter si on veut.
Alors, juste, c'est des interviews qui ont été enregistrées ou réalisées sur quelle période ?
Il y en a certaines qui sont en ligne sur YouTube. Il y a le plus vieux, ça remonte à 2012, je pense. C'est des gens que j'avais c'est une personne que j'avais interviewée pendant ma thèse. Il y en a beaucoup au début du projet Artzine, entre 2015 et 2017. Et puis d'autres plus récemment. En fait, ça correspond au moment où le projet a été assez actif. Voilà. Et donc, c'est des interviews, la plupart en vidéo. Certaines juste en son quand les gens ne voulaient pas être filmés. Et quelques-unes par mail aussi. Et il y a aussi des gens que je n'ai pas pu rencontrer. Et donc là, on est plus sur un mini-article qui raconte un petit peu qui sont ces personnes-là.
Donc, c'était juste pour avoir une petite info de temporalité des interviews.
Et en plus de ces interviews, du coup, Antoine a réécrit des passages narratifs pour que ces interviews ne soient pas simplement mises les unes à côté des autres, mais qu'il y ait une vraie trame narrative où on commence l'histoire en rencontrant cet homme mystère et on arrive à une fin qui est soit heureuse, soit moins heureuse. Et ça va être généré en fonction des choix qu'on fait via l'ordinateur, quoi.
Et donc, ces parties narratives, c'est aussi l'endroit pour moi, en tant que chercheur, de faire passer des idées, puisque faire de la recherche, ce n'est pas uniquement collecter des données, mais c'est en tirer quelque chose. Donc, c'est là-dedans que j'ai essayé de mêler à la fois des choses qui sont écrites à la première personne, puisque ça prend la forme d'une autofiction, je raconte des choses qui me sont vraiment arrivées, et tout en racontant un petit peu qu'est-ce que c'est que ce monde des fanzines d'artistes aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'éditer comme pratique artistique. Et donc voilà, donc c'est ce qui m'a permis de typologiser toutes ces personnes. Il n'y a pas que des artistes que j'ai interviewés, il y a aussi des archivistes, donc des bibliothécaires ou des collectionneurs et collectionneuses privées. Il y a aussi des gens, des libraires. Il y a aussi des gens que j'ai qualifiés de légendes, puisque c'est des gens qui sont actifs, qui éditent des fanzines depuis les années 70. Et donc, dans ces parties narratives, effectivement, j'explique un petit peu, je donne des clés qui j'espère, rendent les interviews plus intéressantes.
Et c'est ce que Ronan, je crois, me disait au téléphone quand je l'ai eu avant pour préparer l'émission. C'est la différence qu'il y a entre l'intelligence artificielle et la technique que vous utilisez, qui est le CSS Print. C'est que la data, c'est vous qui la créez.
Ouais.
C'est ça ?
Alors,
j'ai rien compris.
Non, si. Il y a un peu de ça, mais c'est un peu plus compliqué. C'est okay. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est de l'algorithmie. Donc, c'est prendre des données en entrée, avoir des données en sortie. Le buzzword en ce moment de l'IA générative, c'est ça, mais avec des échelles gigantesques, où en fait les données en entrée, c'est l'analyse de Internet en entier. Alors que nous, nos algorithmes, ils sont beaucoup plus simples, quoi. C'est vraiment, il y a une quantité de choix, une quantité de variables, et ensuite on va, voilà. Après, le CSS, en l'occurrence, on va pas rentrer dans les trucs ultra techniques, mais c'est pas du tout un langage de programmation, c'est un langage de déclaration de style. Donc là, il y a pas de logique, il y a pas d'algorithmie. L'algorithmie, c'est fait en JavaScript, et donc c'est ça qui, là, on manipule les données que Antoine a rentré et on va en faire des choses. On va dire, bah, si la personne a cliqué sur tel choix, alors on va aller récupérer tel type de réponse, on va le faire comme ça, etc. Et donc ça, c'est l'algorithmie et l'IA, si on veut utiliser des buzzwords. Et d'ailleurs, fun fact, on avait commencé avec...
C'est ce que j'allais dire.
vas-y.
Au début, on appelait ça Générative Ardine ou Ardine Génératif. Et effectivement, on a voulu changer parce qu'on ne voulait pas être associé à tout ce buzz autour de l'intelligence artificielle. Et moi, de mon point de vue, quand j'ai écrit tout ça, ce qui me gêne dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une dilution extrême de la responsabilité. C'est-à-dire que globalement, quand on génère des images par intelligence artificielle, on est extrêmement peu responsable du résultat. Et tandis que moi, dans tout ce que je fais, je me considère comme responsable à 100% de tout ce que je fais. Donc, toutes les données qu'il y a là-dedans, c'est moi qui ai tout écrit, c'est moi qui ai tout... tout retranscrit, c'est moi qui ai traduit aussi, j'ai écrit en anglais et traduit en français ensuite, et donc d'un point de vue éthique, ça me paraît important d'être responsable de ce que je fais.
Mais en faisant intervenir le lecteur, spectateur, je ne sais pas trop comment vous qualifiez...
On a toujours un problème là-dessus, même okay. On ne sait pas.
Cette responsabilité, finalement, tu la lègues d'une certaine manière.
Oui, mais même si il y a un nombre colossal de possibilités différentes, à un moment j'avais calculé plus de 130 millions de possibilités textuelles, ça reste moi qui ai tout écrit. Il n'y a pas de manipulation du texte.
Et puis on a créé toutes les règles. On a mis des garde-fous, il y a une manière de fonctionner, et donc l'œuvre, elle est aussi dans le code, quelque part. Enfin, c'est une manière créative de structurer une narration.
Mais tout à l'heure, il parlait, Antoine, de les différentes typologies de personnes qu'il a rencontrées. Ça nous a aussi permis de structurer après, en fait, comment l'histoire va se dérouler. On s'est dit que au minimum, vous allez rencontrer une légende. Enfin, et ça nous a permis, en fait, de structurer l'histoire, quoi. Donc, en fait, tout le contenu est un peu tagué, quoi. Et nous, on lui a donné une règle. Et après, la machine intervient dans cette règle, quoi.
On a parlé des données, mais il y a eu la création d'un caractère typographique pour ce projet qui s'appelle Snapit, qui a comme caractéristique principale d'avoir une chasse fixe dans le but de respecter les hiérarchies d'informations du corpus. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois qu'elle a vocation à évoluer vers deux cases qui sont l'italique et une Grèce, il me semble. Voilà.
Du coup, on l'avait commencé avec Corentin sur le premier Printit, en fait. Donc, en fait, c'est un peu devenu, ça fait partie maintenant de l'identité de Printit. On utilise toujours la Snapit. C'est une monochasse qui n'a pas de courbe. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait appelée Snapit. Et pour ce projet, on a voulu la faire évoluer en variable. Je ne sais pas trop si vous connaissez les fonds de variables, mais ça nous permet en fait de mettre un curseur. Donc on dessine une forme, on va dire la light, et on va dessiner la bold, et on va mettre un curseur au milieu. Ça nous fait, enfin, on peut du coup avoir plein de possibilités de graisse. Donc ça rentrait bien en écho avec notre projet là, et surtout que ce curseur là, on peut le linker à du code. Donc ça aussi, elle a vocation à évoluer dans l'édition.
I think I'll just step. Hi, Vale. So is it Vale or V-Vale?
V-Vale is fine.
V-Vale, cool. So I won't ask you to introduce you, because even if they don't know you in person, they know the work that you've done for Search and Destroy and research. And can you tell us how you started doing this kind of research?
Anger is a great motive to do something. And I was very angry at the conventional and very scarce press coverage of the emerging punk rock counterculture, which was international. And I knew this was going to be the next big, you know, cultural inventive movement, cultural invention movement. Culture has to be imagined and invented and created. It just doesn't happen by itself.
C'est une interview d'Antoine que tu as réalisée Alors, j'ai pas l'année, par contre.
Je crois que c'est en 2016.
2016, voilà, avec V-Veil. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette interview? Le début est assez fort, ça part sur les chapeaux de roue.
Il est assez incroyable. Donc, lui, il est classé dans les légendes. C'est quelqu'un qui a créé un des premiers fanzines punk à San Francisco qui s'appelle Search and Destroy et qui a une énergie de dingue, puisque je ne sais pas quel âge il peut avoir aujourd'hui, mais il est toujours sur les salons, il est toujours en train de vendre ses éditions en direct. Et il est absolument passionnant, et vous pouvez écouter le reste de l'interview sur YouTube.
Et d'ailleurs, il y a toutes les interviews sont disponibles en ligne.
Toutes celles en vidéo.
Toutes celles en vidéo, ok. Ouais. En ce moment, il se passe ce happening. Est-ce qu'il y a une interaction justement avec le public, le spectateur ou le lecteur, je sais jamais comment dire. Comment voilà, vous présentez le projet, comment vous l'amenez à utiliser aussi l'outil que vous avez mis en place et qui lui permet aussi de devenir co-auteur de la publication?
Du coup, il y a effectivement, sur les salons, on est présent avec un ordinateur, une imprimante, et les gens peuvent venir interagir et donc créer leur propre édition. Ils peuvent aussi le faire chez eux. C'est marrant parce que les premières éditions printed qu'on a fait, c'était beaucoup plus accessible parce que impression recto seule, très peu de pages, etc. Là, on commence, ça devient un peu plus complexe. Il faut de quoi percer 4 trous dans une page, il faut imprimer une centaine de pages recto verso, même si c'est du noir, etc. Donc, à voir à quel point ça va. On est encore en train de chercher là-dessus. Comment le public va recevoir? Est-ce que ça va être le même truc d'offrir un cadeau à quelqu'un qui va pouvoir faire son fanzine chez lui?
En tout cas, nous, on aime bien jouer de la contrainte de... on a des contraintes qui sont liées à l'impression en direct. On ne peut pas tout faire comme si on imprimait un livre chez un vrai imprimeur. Et avec Corentin, on aime bien jouer de cette contrainte-là pour nous amener créativement à des formes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir.
La contrainte, ça passe par le format, par la reliure.
Exactement. Ouais. Et là-dessus, contrairement au premier, on est allé un peu plus loin. C'est-à-dire que là, oui, comme tu disais, il faut quand même une perforatrice, pouvoir faire 4 roues, mais on essaye de penser la fabrication la plus simple possible pour qu'on puisse la faire en live pendant les salons, quoi.
Et l'idée, après l'aventure Hardzine, c'est de pouvoir développer, prolonger ce mode d'impression, enfin d'édition, publier un livre.
Le truc, c'est que d'une part, le livre est en constante évolution. On peut toujours rajouter du contenu, on peut toujours Nous, c'est encore une bêta dans le sens où il marche entièrement. On a une histoire complète à chaque fois, etc. Mais on a plein d'envie de rajouter de l'animation à l'interface, rajouter des parties dans le livre, etc. Mais il y a aussi la notion d'open source je trouve qu'elle est un peu intéressante à aborder. Où c'est pareil pour la fonte de tout à l'heure et l'interaction avec le lecteur, où en fait tout ce qu'on crée, non seulement c'est le livre en lui-même qu'on peut avoir à la fin, mais c'est aussi potentiellement avoir des gens qui vont manipuler le code eux aussi, qui vont peut-être créer des livres et utiliser notre fonte, etc. Et pour moi, il est d'autant plus là l'intérêt, c'est de fournir une plateforme entre guillemets quoi, au sens large et qu'on puisse que l'interaction, même d'autres gens vont pouvoir le montrer à d'autres gens, etc. Enfin, tout est accessible, quoi.
Ronan me disait, il me semble par téléphone, que vous considériez le code comme une véritable forme d'art, je me suis justement posé la question de la manière dont vous vous présentiez en tant qu'artiste éditeur. Enfin, je pense que d'ailleurs c'est des questions que tu poses dans ta thèse, Antoine. Cette question-là, est-ce que c'est très poreux? Est-ce que c'est des mots que vous arrivez à poser ou c'est encore toujours en réflexion? Pour tout le monde, hein, pour tous les trois.
Si je peux répondre pour moi, une des choses qui m'intéresse dans l'édition comme pratique artistique, c'est que globalement, on ne travaille jamais tout seul et que l'acte éditorial, il regroupe tellement d'aspects. C'est pas seulement fabriquer des beaux objets, mais la diffusion, c'est aussi extrêmement important. Et donc, c'est toujours en collaboration avec des gens. Et c'est ça qui était très intéressant dans ce projet-là. C'était vraiment cette idée que, au début... Aucun de nous trois avait une idée de ce à quoi ça allait ressembler. Et c'est vraiment un travail en collaboration tous les trois pour un échange pour élaborer une forme d'un livre. Enfin, moi, j'en connais pas tellement des livres comme ça génératifs. En tout cas, moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est le fait qu'une fois que la plateforme sera publique, n'importe qui peut le télécharger quand il veut dans le monde et le diffuser là où il est.
Oui, donc ça rassemble aussi des personnes qui ne se trouvent pas au même endroit, ce projet. Est-ce que vous avez un mot à dire sur la suite du projet ou ce qui est en train de se passer à Offprint en ce moment? Un message, je ne sais pas, quelque chose sur le projet? C'est une sèche. C'est une
couche. Il est toujours en évolution, du coup, c'est pas là, c'est comme disait un peu Quentin, c'est la version bêta qui fonctionne bien, mais on a envie. En fait, c'est un projet assez tentaculaire qui a plein de couches. Et
vous avez une idée d'ailleurs de quand cette plateforme sera disponible?
Ça, du coup, on s'est dit en 2025, fin janvier.
C'est ça. Okay. On se cale sur les salons d'édition.
On se cale sur le prochain salon d'édition. Normalement, on sera à Genève. C'est pas la AIDE cette année, mais c'est organisé par la AIDE, l'école d'art et design de Genève. Et c'est fin janvier. Donc, c'est la prochaine deadline.
Et Antoine, tes recherches, elles se poursuivent ou t'es passé à autre chose?
J'ai des idées pour la suite, mais disons que ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus qu'il y a un peu un côté... accouchement, quoi. Je sais pas encore.
Digestion,
pour le moment,
digestion.
Je vais essayer de vivre avec ce qu'on a fait et de voir comment ça évolue. Une des parties qui m'a donné aussi envie de m'associer avec Objet Papier, c'est quand je les ai vus développer Printit, c'était le fait que quand je parlais de cette vie du livre, ils sont beaucoup intervenus dans des cadres pédagogiques, ils le montrent en direct, donc c'est ça que je vois surtout pour 2025, c'est de le montrer, quoi. Et c'est ça que moi j'aime bien quand je fais mes propres éditions, mes propres fanzines, c'est vraiment l'idée de les vendre directement à la personne qui va les lire. Et donc là, on va les générer à chaque fois directement pour les personnes qui vont les lire.
Merci Antoine Lefebvre, Morgane Bartoli et Corentin Moussard.